Arsène Lupin par Maurice Leblanc. Lu et réalisé par Jean-Pierre Mintal. La demeure mystérieuse, première partie. En relisant les livres où sont racontées aussi fidèlement que possible quelques-unes de mes aventures, je m'aperçois que, somme toute, chacune d'elles résultat d'un élan spontané qui me jetait à la poursuite d'une femme. La toison d'or se transformait, mais c'était toujours la toison d'or que je cherchais à conquérir. Et comme d'autre part les circonstances m'obligeaient chaque fois à changer de nom, de personnalité, j'avais chaque fois l'impression que je commençais une vie nouvelle avant laquelle je n'avais pas encore aimé, après laquelle je ne devais plus jamais aimer. Ainsi, quand je tourne les yeux vers le passé, ce n'est pas Arsène Lupin que j'avise au pied de la Cagliostro, ou de Donia Krichnov, ou de Dolores Kesselbach, ou même de la Demoiselle aux yeux verts. C'est Raoul d'Andrézy, le duc de Charmeras, Paul Cernine, ou le baron de Limésy. Tous me paraissent différents de moi, et différents les uns des autres, bien sûr. Ils m'amusent, ils m'inquiètent, ils me font même sourire, me tourmentent, comme si je n'avais pas vécu moi-même leurs diverses amours. Mais au milieu de tous ces aventuriers, qui me ressemblent comme des frères inconnus, peut-être ai-je quelques préférences pour le vicomte d'Enrys, gentilhomme navigateur, gentleman détective, qui batailla autour de la demeure mystérieuse pour conquérir le cœur de l'émouvante Arlette, petit mannequin de Paris. L'idée charmante, d'ailleurs, avait reçu le meilleur accueil dans ce Paris généreux qui associe volontiers ses plaisirs à des manifestations charitables. Il s'agissait, en bref, de présenter sur la scène de l'opéra, entre deux ballets, 20 jolies femmes, artistes ou mondaines, habillées par les plus grands couturiers. Le vote des spectateurs désignerait les 3 plus jolies robes, et la recette de cette soirée serait distribuée aux 3 ateliers qui les auraient confectionnés. Résultat, un voyage de 15 jours sur la Riviera pour un certain nombre de midinettes. Alors d'emblée, un mouvement se déclencha. En 48 heures, la salle fut louée jusqu'aux plus petites places et le soir de la représentation, la foule se pressait, élégante, bourdonnante et pleine d'une curiosité qui croissait de minute en minute. Au fond, les circonstances avaient fait que cette curiosité se trouvait, pour ainsi dire, ramassée sur un seul point, et que toutes les paroles échangées avaient pour objet une même chose qui fournissait aux conversations un aliment inépuisable. On savait, par exemple, que l'admirable Régine Aubry, vague chanteuse de petit théâtre, mais très grande beauté, devait paraître avec une robe de chez Valmenet, que recouvrait une merveilleuse tunique ornée des plus purs diamants. Et l'intérêt se doublait d'un problème palpitant d'intérêt. L'admirable Régine Aubry, qui depuis des mois était poursuivie par le richissime lapidaire Van Houben, avait-elle cédé à la passion de celui qu'on appelait l'empereur du diamant ? Tout semblait l'indiquer. La veille, dans une interview, l'admirable Régine avait répondu « Demain, je serai vêtue de diamants. » 4 ouvriers choisis par Van Houben sont en train, dans ma chambre, de les attacher autour d'un corselet et d'une tunique d'argent. Valmenet est là, qui dirige le travail. Or, dans sa loge de corbeille, Régine trônait en attendant son tour d'exhibition et la foule défilait devant elle comme devant une idole. Régine avait vraiment droit à cette épithète d'admirable que l'on accolait toujours à son nom. Par un phénomène singulier, son visage alliait ce qu'il y avait de noble et de chaste dans la beauté antique à tout ce que nous aimons aujourd'hui de gracieux, de séduisant et d'expressif. Un manteau d'hermine enveloppait ses épaules célèbres et cachait la tunique miraculeuse. Elle souriait, heureuse et sympathique. On savait que devant les portes du couloir, 3 détectives veillaient, robustes et graves, comme des policemen anglais. À l'intérieur de la loge, deux messieurs se tenaient debout, le gros Van Houben d'abord, le galant lapidaire qui se faisait par sa coiffure et par le rouge factice de ses pommettes une pittoresque tête de faune. On ignorait l'origine exacte de sa fortune, d'ailleurs, jadis marchand de perles fausses, il était revenu d'un long voyage, transformé en puissant seigneur du diamant, sans qu'il fût possible de dire comment s'était opérée cette métamorphose. L'autre compagnon d'origine restait dans la pénombre, on le devinait jeune, de silhouette à la fois fine et vigoureuse, c'était le fameux Jean Denrys, qui, 3 mois auparavant, débarqué du canot automobile sur lequel il avait effectué seul le tour du monde. La semaine précédente, Van Houben, qui venait de faire sa connaissance, l'avait présenté à Régine. Le premier ballet se déroula au milieu de l'inattention générale. Durant l'entracte, Régine, prête à sortir, causait dans le fond de sa loge. Elle se montrait plutôt caustique et agressive envers Van Houben, aimable, au contraire, avec Denrys, comme une femme qui cherche à plaire.
Hé, Régine, vous allez lui tourner la tête au navigateur. Songez qu'après une année vécue sur l'eau, un homme s'enflamme aisément.
Si vous n'étiez pas le premier à rire, je ne m'apercevrai jamais que vous avez essayé de faire de l'esprit.
Denrys, un conseil. Ne perdez pas la tête pour cette femme. Moi, j'ai perdu la mienne et je suis malheureux. Malheureux comme un tas de pierres. Des pierres précieuses. Des pierres précieuses.
Sur la scène, le défilé des robes commençait. Chacune des concurrentes demeurait environ 2 minutes, se promener, s'asseyer, évoluer à la façon des mannequins dans les salons de couture. Son tour approchant, Régine se leva.
J'ai un peu le trac. Si je ne décroche pas le premier prix, je me brûle la cervelle. Monsieur Denrys, pour qui votez-vous?
Pour la plus belle.
Non, mais je veux dire la robe.
Oh, vous savez, la robe m'est indifférente. C'est la beauté du visage, le charme du corps qui importe.
La beauté, le charme, admirer les dons chez la jeune personne qu'on applaudit en ce moment. C'est un mannequin de la maison Schermitz. Qui a composé sa toilette elle-même, elle a confié l'exécution à ses camarades. Elle est délicieuse, cette enfant.
La jeune fille, en effet, fine, souple, harmonieuse de gestes et d'attitudes, donnait l'impression de la grâce même. Et sur son corps onduleux, sa robe, très simple cependant, mais d'une ligne infiniment pure, révélait un goût parfait, une imagination originale.
Arlette Mazel, c'est ça?
Oui.
Ah, je vous le dis sans envie. Si j'étais du jury, je n'hésiterais pas à placer Arlette Mazel en tête de ce classement.
Et votre tunique, Régine? Que vaut l'accoutrement de ce mannequin à côté de votre tunique?
Mais le prix n'a rien à voir.
Mais le prix compte par-dessus tout, Régine. C'est pourquoi je vous conjure de faire attention.
Mais vous êtes marrant, faire attention à quoi?
Mais au pickpocket. Rappelez-vous que votre tunique, elle est pâtissée avec des noyaux de pêche.
Van Houben a raison, nous devrions vous accompagner.
Mais jamais de la vie. Je tiens à ce que vous me disiez l'effet que je produis d'ici. Je veux absolument savoir si j'ai l'air godiche sur la scène de l'opéra.
Et puis, le brigadier de la sûreté Béchou y répond de tout.
Ah, vous connaissez donc Béchou?
Fit Denrys d'un air intéressé.
Béchou, le policier qui s'est rendu célèbre par sa collaboration avec le mystérieux Jim Barnett de l'agence Jim Barnett et compagnie.
Ah, il faut pas lui en parler de ce maudit Barnett, ça le rend malade. Il paraît que Barnett lui en a fait voir de toutes les couleurs.
Oui, effectivement, j'en ai entendu parler. L'histoire de l'homme d'Andorre, c'est ça, et les 12 Africaines de Béchou.
Alors c'est Béchou qui a organisé la défense de vos diamants?
Eh bien oui, il partait en voyage pour une dizaine de jours. Mais il m'a engagé à prix d'or 3 anciens policiers, des gaillards, hein, qui veillent à la porte.
Vous savez, vous auriez engagé un régiment que cela ne suffirait pas pour déjouer certaines ruses. Régine s'en était allée et, flanquée de ses détectives, sortait de la salle et pénétrait dans les coulisses. Comme elle passait au 11e tour et qu'il y avait un léger intervalle après la 10e concurrente, une attente presque solennelle précéda son entrée. Le silence s'établit, les attitudes se fixèrent et soudain, Régine s'avançait.
Vous savez, il y a dans la réunion de la beauté parfaite et de la suprême élégance un prestige qui émeut les foules. Et ça, c'est vrai. Entre l'admirable Régine Aubry et le luxe raffiné de sa toilette, existait une harmonie dont on recevait l'impression avant d'en saisir la cause. Au-dessus de la jupe, une tunique lamée d'argent était serrée à la taille par une ceinture de pierreries et emprisonnait la poitrine dans un corselet qui semblait fait uniquement de diamants. Ils éblouissaient. Ils entrecroisaient leurs scintillements jusqu'à ne former autour du buste qu'une flamme légère, multicolore et frissonnante.
« C'est encore plus beau que je croyais, ces sacrés cailloux !» Et c'est qu'elle les porte bien la matine. Denrys, je vais vous confier un secret. Savez-vous pourquoi j'ai paré Régine de tous ces cailloux? Eh bien, d'abord, pour lui faire un cadeau, le jour où elle m'accorderait sa main gauche, bien entendu. Mais évidemment. Et puis ensuite, parce que cela me permet de la gratifier d'une garde d'honneur qui me renseigne un peu sur ses faits et ses gestes. Il faut quand même pas exagérer, faut quand même être réaliste. Ce n'est pas que je redoute les amoureux, mais je suis de ceux qui ouvrent l'œil et le bon.
De mon côté, Van Uben, vous pouvez être tranquille, je ne fais jamais la cour aux femmes ou aux amis de mes amis.
Reste à savoir quand même si vous me comptez comme un de vos amis. Taisez-vous. Mais vous en avez des façons. Taisez-vous, je vous dis. Mais qu'est-ce qu'il y a?
Quelque chose de pas normal.
Là, dans les coulisses. Mais à propos de quoi?
À propos de vos diamants.
Écoutez, j'entends rien, moi.
Ah, peut-être me suis-je trompé. Cependant, il m'avait paru...
Il n'acheva pas. Les premiers rangs de l'orchestre et les premières places dans les loges de scène s'agitaient. On regardait comme s'il se produisait aux profondeurs des coulisses ce quelque chose qui avait éveillé l'attention de Denrys. Les gens même se levèrent avec des signes d'effroi. Deux messieurs en habit coururent à travers la scène. Et soudain, des clameurs retentirent. Un machiniste affolé hurla
« Au feu! Au feu !»
Une lueur jaillit sur la droite. D'un côté à l'autre du plateau, tout le monde, des figurants, des machinistes, s'élança dans la même direction. Parmi eux, un homme bondit, qui, lui aussi, surgissait de la droite, en brandissant un manteau de fourrure qui lui cachait le visage et en vociférant comme les machinistes
« Au feu! Au feu !»
Régine avait tout de suite voulu sortir, mais ses forces l'avaient trahie, et elle était tombée à genoux, toute défaillante. L'homme l'enveloppa dans le manteau, la jeta sur son épaule et se sauva, mêlé à la foule des fugitifs. Avant même qu'il eût agi, Denrys s'était dressé au bord de sa loge, dominant la multitude du rez-de-chaussée que la panique agitait déjà. « Ne bougez pas, c'est un coup monté, je vous dis !» Et désignant l'homme qui enlevait Régine, il cria
« Arrêtez-le, mais arrêtez-le !»
Il était trop tard, et l'incident passa inaperçu. Au fauteuil, on se calmait déjà, mais sur le plateau, la débandade continuait, dans un tumulte tel qu'aucune voix ne pouvait être entendue. Denrys sauta, franchit la salle et l'orchestre, et sans effort, escalada la scène. Il suivit le troupeau affolé et parvint jusqu'aux sorties des artistes sur le boulevard Haussmann. Mais où chercher? À qui s'adresser pour retrouver Régine Aubry? Il interrogea, personne n'avait rien vu. Dans le désarroi général, chacun ne pensait qu'à soi et l'agresseur avait pu aisément, sans être remarqué, emporter Régine Aubry, galoper par les couloirs et les escaliers, et puis tout simplement sortir. Il avisa le gros Van Uben, essoufflé, et dont le rouge des pommettes, délayé par la sueur, coulait sur les joues.
« Et voilà, mon vieux, escamoté, grâce à vos sacrés diamants !»
Van Uben tira de sa poche un revolver. Denrys lui tordit le poignet.
Vous allez quand même pas vous tuer, non? M'en fichtre, non! Mais je vais le tuer à lui!
Qui, lui?
Mais le voleur! Mes diamants! Je ne me laisserai pas faire! On n'a pas le droit! L'État est responsable!